Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Aujourd'hui, on va parler d'une étude qui dit que 60% des joueurs passent tout leur temps sur Fortnite, je crois, hein, c'est à peu près ça. On a aussi un buzz un peu bizarre et malaisant avec Stellar Blade sur le net, on va vous expliquer ça. Et puis, 4 trailers plutôt intéressants et délirants de jeux indés que je voudrais vous détailler. Et enfin, des jeux auxquels on a joué, Midnight Scenes, A Safe Place, un jeu qui s'appelle Balanced Overwatch, qui est complètement différent d'Overwatch, et plein d'autres choses, c'est tout de suite dans le rendez-vous jeu. Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu, c'est l'épisode numéro 343, je suis Patrick Béja et je suis très heureux de vous avoir avec moi pour ce nouvel épisode qui va être, je n'en ai aucun doute, absolument sublime parce que les sujets seront intéressants et aussi et peut-être surtout parce que nous avons la joie d'accueillir une nouvelle fois Jika Loret. Bonjour Jika, comment vas-tu ?
J'adore parce que j'attends les moments où tu vas me flatter comme ça. J'écarte les bras en grand et je suis prêt à prendre toutes les flatteries que tu vas me faire.
C'est ça, c'est le soleil qui éclaire ton visage. Ça, oui.
On en a besoin en plus aujourd'hui à Paris. Il fait un temps dégueu, donc effectivement. Alors, c'est vrai que la neige chez toi, j'ai vu une photo que chez toi c'est le blizzard.
Jika, on ne se plaint pas, s'il te plaît. Parce que nous, on avait le printemps qui était enfin arrivé. Il faisait genre 5 degrés, tu vois, et on était sortis ramasser les feuilles qu'on n'avait pas ramassées à l'automne. Et on était en train de ramasser les feuilles, il n'y avait plus de neige. Hier, je me réveille le matin et il était censé neiger un petit peu, tu vois. Je déconne pas, il est tombé 30 cm de neige en une nuit.
J'ai ouvert la fenêtre,
je n'en revenais pas. On est en avril, hein, je vous rappelle.
T'as l'impression d'être revenu 4 mois en arrière. Quoi.
Mais j'étais fou de rage. C'est genre, tu sais, t'en peux plus de l'hiver et enfin tu commences à avoir un petit peu... Bon, aujourd'hui, il fait super beau, il y a un grand soleil et avec la neige, c'est très beau. Enfin, la neige, elle tient parce qu'il fait moins 8. Hein. Donc...
Oh merde.
Tu vois ?
Oui, ok. Donc moi, j'ai pas trop me plaindre finalement de ma pluie avec mes seulement 10 degrés, tu vois.
C'est ça, exactement, exactement. En plus, il va faire quoi 25, 30 ce week-end ? Visiblement,
il paraît qu'il va faire 25 degrés ce week-end. Ouais, c'est très bizarre.
Je sais pas si c'est une bonne chose, mais bon.
Non, mais bon, on va finir par s'habituer malheureusement.
Bon, donc bienvenue dans le rendez-vous météo entre la Finlande et la France.
Le rendez-vous.
On a un programme donc assez cossu, non, pas cossu. On a un beau programme aujourd'hui.
Cosy.
Et avant ça, je voudrais quand même remercier les producteurs de cet épisode, Lancelot Davizard et Steph Sinalco, qui sont fidèles au poste comme toujours. Presque chaque semaine, on les remercie tous les deux, puisque ce sont les producteurs historiques de l'émission. Un grand, grand merci à eux et un grand merci à tous les patriotes qui soutiennent l'émission. Si vous voulez rejoindre la famille des formidables patriotes qui font que cette émission peut exister, c'est sur patreon.com/RDV, je vous le savez, le lien est dans les notes de l'émission. Mais écoutez, je vous propose qu'on se lance immédiatement dans les infos principales à retenir aujourd'hui, cette semaine. Et il y a une chose qu'on a bien vu passer partout sur Twitter et avec des réactions un petit peu effarées et énervées, des conclusions un peu hâtives, j'ai trouvé. C'est la publication d'un rapport. On va parler de Stellar Blade hein, tout à l'heure, qui a aussi eu des réactions intéressantes. Mais c'est le nouveau rapport de Newzoo qui étudie le marché du jeu vidéo et qui en tire quelques conclusions. Et là, on parle du marché sur 2023. Alors, je vais vous donner d'abord quelques chiffres principaux qu'on voit tourner ici et là, et puis ensuite je vais vous donner mes interprétations et peut-être vous expliquer pourquoi beaucoup de gens, j'ai l'impression, se plantent sur des conclusions, en tout cas regardent très rapidement les chiffres et en tirent des conclusions qui ne sont pas tout à fait justifiées. Oula, je vais m'étouffer.
Reste avec nous.
Les chiffres comme ça en vrac, il y a d'abord une croissance du marché du jeu vidéo de 2,6% sur 2023 pour atteindre, je sais bien à combien on était, 93 milliards de dollars, quelque chose comme ça. Donc on est quand même à un chiffre impressionnant qui est toujours en croissance. Par contre, ça devrait se stabiliser, voire rechuter un petit peu dans les années à venir, selon Newzoo. On a un temps de jeu qui chute pas mal, par contre, de 26%, mais alors, attention, qui chute de 26% depuis début 2021. Et ça, il ne faut pas oublier qu'on était encore dans la pandémie et il y avait un gros accroissement du temps de jeu. Évidemment, les gens étaient chez eux, passaient du temps devant Netflix et leur console. Donc, une chute du temps de jeu n'est peut-être pas très surprenante par rapport à début 2021, mais il n'empêche, c'est notable. Et puis, il y a cet ensemble qui fait beaucoup parler, c'est le fait que 60% du temps de jeu des joueurs en 2023 a été passé sur beaucoup de jeux-services et que ces jeux-services ont plus de 6 ans. Et en parallèle de ça, le reste du temps de jeu, donc le reste des donc les 40% de temps de jeu restant, eh bien la moitié de ce temps de jeu a été passé sur des énormes licences type Madden ou Call of Duty ou FIFA ou ce genre de licences. Et donc ça laisse, selon l'étude et selon la réaction de beaucoup, ça laisse très peu de temps de jeu pour le reste des jeux qui sont tous les gros triple A exclus ou pas, tous les jeux indés, etc. Ils doivent se partager en fait 25% du temps de jeu total des joueurs. Et ça fait paniquer beaucoup de gens. Et à mon avis, c'est assez facile de trouver ces chiffres très alarmistes. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas très très bien cette étude. D'abord, on parle de temps de jeu. Essentiellement, là, quand on met ces chiffres en avant. Les temps de jeu, ce n'est pas forcément les revenus. Mais focalisons-nous un petit peu sur le temps de jeu. Par exemple, le 60% de temps de jeu qui est mangé par les gros jeux-services, il y a beaucoup de gens qui concluent que, du coup, le jeu solo est en danger ou en déclin. Le problème, c'est que la pertinence de la comparaison entre le temps de jeu pour les jeux services et le temps de jeu pour les jeux solo est à la base déjà un petit peu compliqué à faire parce que c'est les jeux services sur lesquels on passe énormément de temps, mais surtout la manière, si je comprends bien l'étude, la manière dont ils ont établi ce top 10 par console, parce que beaucoup de gens ont partagé ce tableau qui montre les top 10 par plateforme, donc les trois consoles et le PC, et qui montre que dans le top 10, c'est Fortnite, Roblox, Minecraft, Grand Theft Auto 5, EA Sports FC, etc. Et donc, la manière dont ils ont fait ce tableau, c'est clair, c'est écrit en haut du tableau, c'est les joueurs mensuels uniques moyens, les joueurs mensuels uniques moyens sur l'année. Si je comprends bien ça, c'est évident que sur une année, il va y avoir beaucoup de joueurs uniques qui vont jouer à Fortnite chaque mois, tous les mois de l'année, sur les 12 mois de l'année, alors que sur un jeu comme, au hasard, Starfield, puisqu'il figure dans le top de la Xbox, ils vont jouer pendant 2, 3 mois, 4 mois, peut-être un peu plus, mais ils ne vont pas jouer toute l'année. Si tu fais la moyenne sur l'année du nombre de joueurs mensuels, il est évident qu'il va y avoir dans le top tous les jeux auxquels les gens jouent toute l'année, et donc les gros jeux-services. Il ne faut pas oublier non plus que les jeux en question, c'est des jeux auxquels les jeunes, les ados, passent, et voire plus jeunes, passent beaucoup de temps. Quand on parle de Fortnite, de Roblox, de Minecraft, etc., même des trucs comme Counter-Strike ou League of Legends ou Valorant, c'est des jeux auxquels les jeunes passent beaucoup de temps, n'est-ce pas ? Parce qu'ils ont beaucoup de temps. Des gens plus âgés qui ne vont pas avoir énormément de temps, ils ne vont pas forcément passer leur vie sur Fortnite. Bien sûr, il y en a, mais ça ne va pas être la généralité. Et du coup, ça biaise forcément le classement. Les jeux sur lesquels on passe le plus de temps, eh ben, c'est des jeux qui sont conçus pour qu'on y passe le plus de temps. Alors, ça ne change pas le fait que ça veut dire que ces jeux-là, c'est des jeux qui bouffent le temps des joueurs. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu comme l'air dans une pièce. Quand tu donnes un espace à un gaz, eh ben, le gaz va occuper tout l'espace qu'il y a. Là, c'est pareil. Tu donnes énormément de temps de jeu à des joueurs, eh ben, ils vont jouer aux jeux qui leur permettent, qui sont conçus pour jouer le plus longtemps possible. Ça ne veut pas dire que les gens ne jouent pas à d'autres jeux, y compris des jeux solo. Mais il y a aussi, justement, à propos de ces autres jeux auxquels on joue qui ne sont pas ces gros jeux service qui ont 6 ans ou plus, on parle de FIFA, COD, etc., Call of Duty, Madden, NBA, tous ces grosses licences de gros éditeurs. Et on est étonné que les gens passent du temps sur des grosses licences. Évidemment que les gens vont passer du temps sur des énormes licences. Surtout que, il ne faut pas oublier que la plupart des joueurs, nous, auditeurs du Rendez-vous Tech et auditrices du Rendez-vous Jeu et auditrices du Rendez-vous Jeu, on est des exceptions. Les gens qui jouent à 10 jeux par an, il n'y en a quasiment pas. La plupart des gens, c'est dans le jeu vidéo comme dans le cinéma, des gens qui vont acheter un ou deux jeux, ils vont acheter leur FIFA et leur code, et c'est tout. Les gens qui vont au cinéma, ils ne vont pas voir un film par mois, hein. Ils vont voir, ou un film par semaine, ils vont voir deux films dans l'année en moyenne en France. Donc, ce n'est pas surprenant que ces gros jeux trustent le temps de jeu des joueurs. Entre parenthèses, là où, encore une fois, j'ai un petit problème avec les conclusions, pas sur l'étude, mais les conclusions qui sont tirées de l'étude par les gens qui la lisent, j'ai l'impression un peu en diagonale, c'est qu'on n'a pas de point de comparaison. On ne peut pas déceler de tendance. L'étude, elle a été faite deux fois depuis deux ans. Et donc, on ne peut pas dire, il y en a plus cette année, moins cette année. Donc, tu vois un point, tu n'as pas une ligne, tu n'as pas une courbe. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il faut pouvoir, comme je le disais à propos d'autres chiffres il n'y a pas si longtemps, il faut pouvoir comparer, voir dans quel sens ça va. Alors, je ne serais pas surpris que ça aille dans le sens qu'on pense en lisant les trucs, mais il n'empêche, on n'a pas les données sur les 5 ou 10 dernières années, donc pour moi, c'est difficile de tirer des conclusions. Le truc, par contre, qui est vraiment intéressant, c'est que sur ces gros jeux services qui occupent 60% du temps de jeu, on a des jeux qui sont plutôt vieux, donc des jeux qui ont 6 ans et plus, comme je le disais. Fortnite, GTA Online, Roblox, Minecraft, les Sims d'ailleurs qui se glissent dans les PC, Rocket League, etc. Il a plus de 6 ans, Rocket League, si je ne me trompe pas. Et du coup, oui, ça veut dire que parmi ces gros jeux services qui sont là pour occuper toute votre vie, eh ben, c'est plutôt des acteurs historiques qui sont établis et qui sont hyper difficiles à déloger, on a l'impression, parce que les gens ont pris leurs habitudes. Et puis surtout, il n'y a pas, comme il y a 10 ans ou 20 ans, il n'y a pas les nouveaux jeux qui ont de meilleurs graphismes, et donc on a envie d'aller sur ces nouveaux jeux qui sont super beaux, meilleurs graphismes. Non seulement les graphismes comptent beaucoup moins qu'à l'époque, mais en plus de ça, il y a une habitude qu'on a pris, enfin, pour les développeurs, de mettre à jour leurs jeux pour améliorer les graphismes, etc. Donc c'est moins important, la technologie, la technique des machines que ça pouvait l'être à une époque et qui pouvait un petit peu artificiellement renouveler le parc des jeux populaires. Mais donc, voilà, dans l'ensemble, il y a quand même, j'ai l'impression, beaucoup d'interprétations faciles de cette étude. Et je trouve, j'ai l'impression qu'il y a des explications auxquelles on ne pense pas forcément. Comme par exemple, des gens disent « Oh, ben, il n'y a pas Diablo 4 ou Baldur's 3 dans ces trucs-là. » Ce n'est pas des jeux aussi grand public, donc ça me surprend un petit peu moins. Et ça ne veut pas dire, bon, on l'a vu avec Baldur's Gate 3, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'énormes succès. Encore une fois, un autre truc à noter enfin, et je conclue avec ça, c'est qu'on parle de temps de jeu, pas de revenus. Évidemment que les deux sont liés, mais quelqu'un qui joue sur Fortnite pendant, 20, 30, 40 heures par mois, ce n'est pas forcément quelqu'un qui va dépenser énormément d'argent dans Fortnite. Alors que Baldur's Gate 3, tu l'achètes, tu le payes, et tu as déjà payé. Donc, il y a une question de... Enfin, bon, bref, je ne devrais pas tirer des conclusions sur les histoires de revenus, mais juste noter que le temps de jeu, ce n'est pas les revenus. Donc, 60%, on a tendance à se dire « Donc, il n'y a plus d'argent pour personne d'autre ?» Pas forcément, ce n'est pas la même chose. Bon, je me suis un peu emporté, peut-être. Jika, est-ce que c'est la panique ?
Non, bah, ton analyse, je suis complètement d'accord. Et ce qui est marrant, c'est que là, je regarde les listes par plateforme. Et tu vois notamment que la console la plus grand public, la console la plus grand public, c'est la PlayStation 5. Et il n'y a pas, dans la liste des 10 jeux, il n'y a pas un seul jeu exclusif PlayStation. C'est ça qui est fou aussi, ouais. Que je trouve intéressant.
Il n'y a pas ni Spider-Man, ni...
Il y a ni Spider-Man, ni God of War, ni évidemment The Last of Us, etc. Le seul qui s'en sort évidemment très bien là-dessus, et c'est pour ça qu'ils sont extrêmement forts, c'est Nintendo, quoi. C'est-à-dire que sur les 10 jeux, les plus jeux sur Switch, il y en a 6 qui sont des exclus Nintendo, quoi. Entre Mario Kart, Mario Wonder, Zelda, Animal Crossing, Super Smash Bros, c'est incroyable. Enfin, là-dessus, je trouve que... Mais du coup, ça donne
mais
quand même une espèce
Nintendo,
de...
Nintendo, comme tu le disais, c'est Fortnite qui est en premier, et Fortnite est premier.
Mais c'est quand même Fortnite qui est en premier.
Toutes les consoles et le PC. Premier.
Ça c'est et Roblox, c'est vrai que moi par exemple, j'ai 43 ans, enfin Roblox pour moi c'est lointain, enfin pour moi c'est un truc qui existe à peine, tu vois, je ne sais même pas ce que c'est, j'ai jamais touché. Alors peut-être que dans 2-3 ans mon fils va me montrer Roblox, j'en sais rien, tu vois, mais il me dit c'est fou Roblox qui est deuxième comme ça sur PC et sur cinquième sur Xbox, cinquième sur PlayStation, enfin c'est voilà. Donc non, et je suis d'accord que le fait que si on n'a pas de comparaison avec les autres années, si on n'a pas de courbe, etc., c'est pas très pertinent de analyser comme ça. En plus, à l'époque du Covid, bah, ça a été vraiment une espèce de période un peu particulière parce que c'était à la fois une période compliquée pour tout le monde et à la fois une période un peu d'or, une sorte d'âge d'or, enfin une sorte de période de grâce pour le marché. Même moi, tu vois, côté hardware. Je travaille pour un constructeur de PC, comme tu le sais, je travaille pour Asus, et à chaque fois, la période Covid, c'est vraiment une sorte de période à mettre à part, parce qu'aujourd'hui, forcément, le marché il est en baisse, mais par rapport à 2020-2021, oui, évidemment, mais ça ne veut pas dire que le marché va mal non plus, quoi.
Donc, et c'est intéressant de noter que le marché a quand même connu une croissance en 2023, alors de 2,6%, ouais. Mais quand même une croissance encore. Moi, j'ai l'impression que ce marché, c'est vraiment un marché qui a été en croissance depuis 40 ans, il s'est jamais arrêté. Et maintenant, on commence à avoir un petit peu atteint... on touche tout le monde, quoi. Donc, bon, peut-être.
Après, ce qui est assez impressionnant, c'est vrai que c'est que se dire, aujourd'hui, quand tu es un éditeur, un développeur, va aller chercher les Fortnite, va aller chercher les GTA, en termes de triple A, en termes de jeux service, mais bon courage, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul jeu service récent, là, qui est dans le top, pas un seul.
Donc, c'est ça la conclusion ça, la plus intéressante.
C'est un peu décourageant, c'est même un peu décourageant. Et en même temps, tu peux dire, si tu chopes le gros lot, si tu chopes le prochain Fortnite, eh ben, t'es sûr d'avoir du cash pour les 10 ans qui viennent, quoi. Donc voilà.
C'est ça qui est, je dirais, encourageant par rapport au marché traditionnel. Alors oui, il y a les établis qui sont là et qui sont difficiles à faire bouger. C'est un petit peu comme dans la tech, hein, qui est un autre marché qu'on connaît bien. Vas-y, va faire bouger Facebook ou Google ou Amazon.
Ou Apple,
bon courage, ils sont, c'est les gens qui ont le marché et qui ne vont pas le lâcher. Par contre, un truc qui est quand même intéressant, je pense, sur ce type de marché pour le jeu vidéo, c'est qu'il n'y a pas d'énormes barrières mécaniques à l'idée, au fait de remplacer... ou au fait d'accéder aux clients. C'est-à-dire que la distribution est 95% numérique, et pour ces jeux-là, c'est 100% numérique. Et donc, c'est pas que tu dois avoir une relation avec le commerce, c'est pas que tu dois avoir une force de vente qui est sur le monde entier, c'est pas que... Si tu fais un jeu, que tu as des serveurs pour le distribuer, on pourra y accéder et les joueurs pourront l'installer. Donc, La porte d'entrée, certes, est compliquée à ouvrir, mais elle est possible à ouvrir. Alors qu'il y a 20 ans, si tu voulais sortir un gros jeu, alors déjà, il n'y avait pas les jeux services, évidemment, mais si tu voulais sortir un gros jeu, il fallait être présent dans toutes les boutiques du monde, j'allais dire de France, mais toutes les boutiques du monde, c'était beaucoup plus compliqué. Mais bon, il n'empêche, oui, clairement, les Fortnite et consorts. Oui. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier l'âge et le type. Je veux dire, on peut séparer le type de joueur, j'ai l'impression que nous, on pense... aux joueurs genre comme nous, les core gamers ou les hardcore gamers, alors qu'en fait, pour les gens qui vont passer beaucoup de temps tous les soirs sur Fortnite, ils n'ont pas le même rapport aux jeux vidéo. C'est un truc qu'ils font comme ils feraient autre chose. Et ils passent du temps sur Fortnite pour jouer avec leurs amis. Il y a énormément de gens qui ont un rapport beaucoup plus distant. C'est le fun de FIFA. Je veux dire, ils ne jouent pas aux jeux vidéo, ils jouent à Fortnite, ou ils jouent à FIFA, ou ils jouent à COD. C'est un rapport un peu différent, je trouve.
C'est vrai que quand tu vois cette liste, moi, je me rends compte à quel point je peux être finalement éloigné de la réalité en, par rapport à mes habitudes de jeu, par rapport à mes goûts. Tu vois, je vais te parler d'un jeu en pixel art là, qui est fait par un mec, quoi, tu vois. Enfin, et c'est ce genre de jeu que j'aime. Mais évidemment, je me rends compte que c'est 0,1% du public du jeu vidéo aujourd'hui. Donc c'est vrai que, et à la fois, bon, bah, c'est pas grave, tu vois, pour moi. Et je sais que typiquement, je sais que enfin, mes enfants, quand ils grandiront, bah, ils joueront à des jeux qui me dépasseront peut-être complètement. Mais
en fait,
qui joue à Minecraft, tu vois, et ça, je trouve ça super.
Tu sais, j'ai l'impression qu'on se dit, on a tendance à voir ces chiffres et à voir ces tendances et se dire, oh mon Dieu, ça veut dire que plus personne ne joue aux jeux en pixel art, tu vois, et que ces pauvres jeux, personne ne s'y intéresse, machin. C'est pas ça. C'est que le marché a tellement cru, il a tellement grandi ces 20 dernières années qu'il y a plus de joueurs pour tous les types de jeux, y compris les joueurs en pixel art, les jeux en pixel art, tu vois. C'est juste que les jeux en pixel art, ou les jeux, enfin, je veux dire, les jeux de core gamer, bah, avant, ça occupait, je sais pas, 50% du marché du jeu vidéo. Aujourd'hui, ça occupe 5% parce que le marché a été décuplé. Tu vois, c'est qu'il y a beaucoup plus de joueurs qui jouent à plein de trucs, des trucs plus casual, mais voilà. Et d'ailleurs, je conclue en disant que Unicorn Overlord, si tu veux un jeu niche, c'est pas possible de faire plus niche, quoi.
Vanillaware, dans le genre, ouais.
Voilà, Vanillaware Unicorn Overlord, il a vendu 500 000 unités, ce qui est pas mal du tout, ce qui est mieux que 13 Sentinels à Aegisrim. Et Dragon's Dogma 2, il s'est vendu à 2,5 millions d'unités. Pourtant, Dragon's Dogma, alors oui, il a fait un petit peu de bruit, machin, mais c'est pas un énorme triple A qui assassine tout le monde de son marketing, machin. Non, c'est un gros jeu Capcom. Enfin, c'est un gros double A Capcom, mais c'est pas la plus grosse. C'est même pas la plus grosse sortie de Capcom, quoi. Et pourtant, 2,5 millions, c'est énorme. Donc bon.
Voilà. Oui, et c'est pas Monster Hunter, c'est pas un Resident Evil, c'est pas
Street Fighter. Enfin, il a vendu. Excuse-moi, Street Fighter, il a mis genre 3 jours à attendre 1 million, je crois, un truc comme ça. 2,5 millions, Dragon's Dogma 2. 2,5...
Il a... Je disais juste qu'il a dépassé très rapidement les ventes totales du premier, en fait.
Ah, ça, c'est pas surprenant,
Ouais, c'est pas surprenant, parce que de toute façon, mais c'est marrant, parce que le premier, c'était mal vendu, mais c'était un jeu un peu culte, c'est pour ça qu'il y a une suite. Hein, ouais,
c'est sûr.
Et comme quoi, non.
Avec Dark Horizon, d'ailleurs, il s'était... Mais je suis pas en train de dire que Dragon's Dogma 2, c'est un jeu de niche, hein. On me dit dans la chatroom. Non, non, bien sûr, c'est pas un jeu de niche.
Mais par rapport à un Fortnite, si, un peu quand même.
Oui, non, mais même pas, je veux dire, par rapport à un autre jeu core gamer. Tu vois, c'est pas un God of War, c'est pas un Starfield, c'est pas... Tu vois, c'est pas un jeu que tout le monde attendait, que tout le monde était dessus, c'était... Bon, bref. Voilà donc pour cette étude que moi j'ai trouvée un petit peu mal interprétée dans ses interprétations. On peut parler un petit peu maintenant de Stellar Blade. Et de Stellar Blade, pour illustrer le sujet, je vais vous proposer la vidéo de Sky Marmot. L'ami Sky Marmot qui l'a testé, qui en dit, je mettrai dans la newsletter le lien vers sa vidéo. Entre parenthèses, tiens, j'ai un groupe, comment ça s'appelle ? Un broadcast channel sur WhatsApp que je suis en train de tester. Et il y a déjà plusieurs dizaines de personnes qui l'ont trouvé. J'en parlais dans le rendez-vous tech. Et je vais mettre chaque semaine les 3 news tech et les 3 news gaming dans le broadcast channel. Je vous mettrai le lien vers ce broadcast channel dans les notes de l'émission. Vous pouvez aller... c'est vraiment en test. Hein, je suis en train de voir comment ça marche, si ça peut être intéressant ou pas. Mais c'est un canal de diffusion assez intéressant. C'est dans WhatsApp. Vous avez la possibilité d'avoir des channels qui ne sont pas algorithmiques. Donc, vous suivez un créateur ou une publication et vous allez avoir tous les quelques temps, quand il décide, les infos, les messages vers vous. Vous pouvez réagir, mais pas commenter. Et du coup, il y a zéro toxicité, il y a zéro... J'aime bien l'idée et c'est des trucs un petit peu plus longs avec mon avis et mon analyse. Vous pouvez avoir ça dans WhatsApp. Ah tiens, il y a encore plus de monde maintenant, c'est cool. Bref, donc, Stellar Blade. Donc, je mettrai le lien vers la vidéo de Sky Marmot dans la newsletter et dans les différents endroits où je publie tout ça. Mais c'est surtout pour parler de cette réaction, de ce buzz hyper bizarre qui s'est créé autour de Stellar Blade. Qu'est-ce que c'est que Stellar Blade ? C'est un jeu, on va dire un double A, d'action à la troisième personne qui est dans le gameplay et dans l'ambiance pour résumer rapidement, un mélange entre Nier Automata pour les androïdes, femmes, qui se battent dans un monde post-apocalyptique contre des créatures diverses, et donc Sekiro pour le gameplay vraiment assez exigeant, avec des bons timings, une barre de posture qu'on peut briser, etc., etc. Donc c'est en gros Sekiro dans le monde de Nier Automata. On va dire ça comme ça, c'est fait par un développeur coréen, et l'une des raisons pour lesquelles il est relativement connu, il est un peu poussé par Sony, mais surtout de l'aveu même de son développeur, eh ben, on a des personnages, le personnage principal et même les autres personnages du jeu, qui sont quand même assez sexy, on va dire ça comme ça. Certains pourront dire que... Et c'est une nuance qui est importante parce que, pour moi, elle n'est pas juste sexy, elle est quand même sexualisée. C'est pas juste qu'elle est belle, qu'elle a des formes, qu'elle est, tu vois, mise en valeur. C'est qu'elle est quand même... ses formes, on s'y attarde beaucoup. Elle a des tenues où elle est... concrètement, elle est à poil. Hein, elle a des gros seins, gros cul, et elle est à poil et elle est filmée de manière à ce que, bon, bah, tu sens que le kiff du développeur, il s'en cache pas, c'est un petit peu ça aussi. Bon, donc, si elle était que sexy, ça serait pas gênant, mais le fait qu'elle soit vraiment sexualisée, ça fait grincer des dents un certain nombre de spectateurs, d'analystes de ce jeu. Depuis les premiers trailers, à mon avis, c'est relativement justifié. Mais le truc, bon, c'est pas une cruche, elle se bat, elle est très forte. C'est pas non plus, disons, on est dans l'ambiance qu'on avait il y a, avant le Gamergate, il y a une dizaine d'années dans le jeu vidéo, où il y a effectivement certains jeux, en particulier en Asie, le développeur est coréen, comme je le disais, en particulier en Asie, où c'est assez normal, où c'est plus attendu de faire des personnages un petit peu sexualisés dans les jeux vidéo. Ça dit quelque chose sur les sociétés en question. J'en sais quelque chose, j'ai vécu au Japon. Mais bon, voilà, c'est un petit peu un retour là-dessus. Donc ça, c'est l'état des lieux de l'image du jeu et de ce qu'est le jeu jusqu'à la sortie de la démo, il y a une semaine, 10 jours, quelque chose comme ça. Et les gens ont commencé à tester la démo et donner leur avis et la réaction sur la démo. Et il y a deux choses qui ressortent. D'une part, la démo, eh ben, elle est bien. C'est un jeu qui a l'air, sur la demi-heure, les trois quarts d'heure de la démo, qui a l'air d'être effectivement un bon jeu, mécaniquement. Il a une certaine... Alors, c'est un double A, hein, c'est pas un gros triple A, mais il a une certaine valeur de production. Le début de l'intro, tu es sur la plage, il y a des immeubles qui tombent, c'est impressionnant, c'est un gros set-piece, etc. Et le jeu, le gameplay, bah, c'est un petit peu Sekiro, hein, et c'est pas mal, c'est bien. Là où on attendait un truc fait un petit peu rapidement, qui serait peut-être... qui se contenterait de faire un personnage sexy avec un gameplay moyen. Ben non, en fait, le gameplay est bon. Donc ça, c'est la première constatation. Et j'en viens à l'ambiance hyper bizarre autour du jeu. C'est qu'il y a énormément de joueurs qui... En fait, j'ai regardé des réactions de joueurs qui exultaient devant ce jeu, et devant le gameplay, hein, devant la qualité du gameplay du jeu, qui disait, et de la mise en scène et tout ça, et des réactions qu'on a vues un petit peu sur Twitter, des gens qui disent « J'adore les jeux vidéo, yeah, vas-y, c'est trop cool, oh là là, mais quel truc incroyable, ce jeu, c'est fou !» Avec des, effectivement, un finisher du personnage où elle met un grand coup d'épée dans le truc, elle le retourne, elle le fait tomber par terre, c'est cinématographiquement, c'est assez, c'est un peu jouissif, quoi, c'est ce qu'on aime bien, on appuie sur le bouton et puis ça fait super badass. Et j'ai vu ça et je me suis dit, ça me donne le sourire à moi-même, quoi. C'est genre, waouh, mais ça, attends, mais ça a l'air super. Faut que j'aille voir ça. Et les gens, ils se disent, mais c'est le meilleur jeu, c'est le meilleur, pas juste jeu vidéo, c'est le meilleur moment de ma vie. Et du coup, je suis allé télécharger la démo. J'ai commencé à jouer et, le jeu est pas mal, bien, il a l'air. Il sort là dans quelques jours, donc on voit que sur la démo, mais il est pas mal, mais. Il y a une sorte de déconnexion complète entre l'exultation, j'oserais même dire la jouissance que semblent manifester certains joueurs, et l'état du jeu, qui je comprends qu'il soit bien, mais j'ai pas l'impression que ça soit justifié, que ça justifie une telle réaction. Et du coup, on a cette ambiance hyper bizarre où, soyons honnêtes, hein, les gens qui sont aussi... Il y a plein de gens qui sont raisonnables et qui disent « Ouais, le jeu est cool, il a l'air bien, machin. » Mais les réactions comme ça, un petit peu, pas malaisantes, mais un petit peu bizarres, incompréhensibles, bah, c'est beaucoup de gens qui, j'ai l'impression, sont tellement heureux d'avoir une femme sexualisée dans leur jeu. Alors, ils disent « Ah, elle est belle, voilà, ça, c'est une vraie femme, c'est pas comme Aloy dans Horizon, voilà, là, et là, on aime voir des fesses et des trucs. » Bon, OK, ils sont tellement contents d'avoir ça qu'ils se sentent, je ne sais pas, pas obligés consciemment, mais qu'ils reportent leur exultation d'avoir enfin un truc qui n'est pas woke, j'interprète un peu, dans une sorte d'obligation de trouver le jeu incroyable, à un niveau qui dépasse le cadre du jeu lui-même. Certains comprendront ce que je veux dire. Moi, j'ai eu l'impression un peu que... est-ce que vous, si vous regardez Jujutsu Kaisen, un animé, vous vous souviendrez de cette scène où Aoi Todo devient le meilleur ami de Yuji Itadori. Et il y a un moment où, en fait, Aoi Todo, il demande ses deux étudiants dans les écoles d'exorcistes, et il lui demande « Ah, toi, c'est quoi ton type de meuf ?» Tu sais, c'est complètement bizarre, ça n'a aucun sens. C'est quoi ton type de meuf ? Et Yuji, il dit, mon type de meuf ? Mais ils sont en train de se battre en plus. Il dit, enfin, j'en sais rien, genre, j'aime bien les grosses fesses, genre, enfin, je sais pas, genre, Jennifer Lawrence. Et Todo, son idole, c'est Jennifer Lawrence, enfin, son, le type de meuf préféré. Et donc là, tu rentres dans la tête de Todo, qui se revit une jeunesse entière avec Yuji Itadori en tant que meilleur ami. Et genre, ils sont à l'école, ils parlent de trucs, ils se donnent des confidences, ils parlent de films, et ça dure 3 minutes. Et à partir de là, Yuji Itadori, c'est devenu le meilleur ami de Todo. Et à chaque fois que Todo parle de Yuji, il dit « my besto furendo », avec l'accent évidemment japonais. C'est complètement disproportionné par rapport à la relation entre... Les mecs, ils se connaissent pas, quoi. Et il est son meilleur ami, son ami d'enfance, son machin. Là, c'est un peu pareil. Le jeu, il est sympathique, mais c'est le meilleur jeu de l'histoire, c'est le meilleur, c'est l'essence du jeu vidéo, machin. Et ça a créé une ambiance sur le net qui est hyper bizarre. Et je comprenais pas jusqu'à ce que je vois la réaction de Maximilian Dude, qui est un autre... une personne, enfin un YouTuber spécialisé dans le jeu de combat, mais que je suis et que j'aime bien, et il a tweeté en disant « Mais c'est super bizarre ce qui se passe autour de Stellar Blade. Bon, moi, voilà ma vidéo, voilà ce que je pense du jeu. » Et pareil, il dit « Bah, il a l'air sympa, il est pas mal, je suis surpris, machin. » Mais les réactions exubérantes ont complètement vampirisé tout le reste de l'ambiance autour du jeu. Et c'est bizarre, quoi. C'est juste bizarre. Je m'arrête là.
Ouais, bah, je t'avoue que je suis vraiment passé à côté de ce truc, donc je découvre un peu tout ce que tu racontes. Après, enfin, moi, tu vois, typiquement, que le personnage soit habillé en pantalon en cuir moulant ou en jogging, enfin, ce qui est important, c'est est-ce que le personnage est charismatique, est-ce qu'il est stylé, est-ce qu'il a du style, est-ce qu'il a un truc, tu vois. Là, et pour moi, c'est la différence, tu disais, entre sexy et sexualisé. Et tu vois, Bayonetta, par exemple, je trouve ça un personnage hyper stylé. Elle est hyper sexy, mais est-ce qu'elle est sexualisée? Je ne sais pas. Là, il n'y a clairement pas, dans Stellar Blade, quand tu vois le design du personnage, même la façon dont elle est habillée, il n'y a pas le charisme d'un Bayonetta. Même si, finalement, en termes de style visuel, le style de Frank, ça se rapproche un peu. Parce que Bayonetta, tu as une attitude, tu as un personnage, tu as un caractère, ce n'est pas juste un design de personnage avec des vêtements, tu vois.
Ouais, je suis d'accord, mais Stellar Blade, il y a genre un des costumes, elle est carrêment à poil. Hein. Elle est... Après,
ouais, bah, ça j'ai pas vu. Mais
tu vois
Bayonetta, t'as une attaque où quand même justement le personnage se retrouve tout nu et, ouais. et c'est les cheveux qui forment un vêtement. Mais ça, c'est une idée déjà que je trouve super cool de design, tu vois. Donc c'est la différence. Après tu vois, sur enfin déjà je suis Enfin, à t'entendre, on a vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont complètement dithyrambiques, etc. Parce que justement, c'est pour moi, ces mecs-là, c'est les mêmes mecs qui passent leur temps à dire que Disney est devenu woke parce qu'il y a des femmes noires dans Star Wars, tu vois. Pour moi, c'est le même public. Hein. Enfin, clairement, j'ai l'impression qu'on est sur le même genre de personnage. Mais est-ce que c'est vraiment... Est-ce que c'est une minorité bruyante ou est-ce que c'est vraiment un phénomène qui peut être inquiétant? Je sais pas.
Moi, je crois que c'est... Franchement, j'en parle parce que l'ambiance est bizarre autour du jeu. Mais à la limite, même ces gens-là qui ont l'impression d'être persécutés, ça me gêne pas énormément. Je veux dire, le jeu... Le problème, quand on parlait à l'époque du Gamergate, le problème qu'on avait, c'était qu'il n'y avait que ça. Il n'y avait que des personnages sexualisés. Si tu me demandais comment je préférais que la société soit, je préférerais que l'objectification des femmes n'existe pas. Bon, donc, un jeu comme ça, ça ne me plaît pas énormément. Mais... soyons raisonnables, oui, il y a des jeux où il va y avoir des femmes qui vont être sexualisées, il y a des films porno, il y a du... Tu vois, s'il y en a un petit peu comme ça de temps en temps, c'est pas si grave. Et puis si ça leur fait plaisir, tant mieux pour eux, je veux dire. L'essentiel, pour moi, c'est que une majorité des représentations de femmes dans le jeu vidéo soient réfléchies et intelligente et raisonnable et pas constamment sexualisée comme c'était le cas en 2010, tu vois. Mais il y a encore, j'en parlais à propos de Final Fantasy VII, il y a encore des poupées gonflables dans les jeux vidéo, ça arrive de temps en temps. Bon, et encore une fois, là, c'est pas la fin du monde. Elle est effectivement un petit peu sexualisée, mais elle est badass, c'est pas une cruche qui est dans un coin qui fait la cuisine, tu vois. C'est pas tant la question de la sexualisation de Eve dans Stellar Blade qui m'importe, c'est la réaction des gens qui se sentent persécutés, qui sont en train de dire « Mais c'est le meilleur jeu vidéo de la Terre, de l'histoire, oh, j'en suis tellement heureux, enfin !» Tu vois, c'est genre « Mais ok, très bien, bon, voilà, c'est tant mieux pour vous, quoi. » Moi, ma réaction, c'est « Tant mieux pour vous, si ça vous rend tellement heureux, bah très bien, personne va vous l'enlever, Stellar Blade. Il est super, ce jeu, très bien, bravo, voilà. » Et pour moi, c'est pas un dernier râle d'agonie non plus, tu vois, de ces mouvements. Mais ça fait pas énormément de bruit. C'est comme le fameux Gamergate 2.0 avec Sweet Baby qu'on commence déjà à plus trop entendre au-delà de leur mouvement à eux. Bon, et d'ailleurs, j'ajoute qu'il y a plein de gens, je pense, qui aiment Stellar Blade, non pas pour cette raison, mais simplement parce que Stellar Blade est un bon jeu avec une meuf sexy. Tu vois, c'est pas, y a pas un truc militant chez tout le monde derrière le fait d'aimer Stellar Blade. Et même ceux qui l'aiment à ce point, je suis sûr qu'ils sont sincèrement heureux d'avoir ce jeu. Bah tant mieux pour eux, je vais pas aller plus loin que ça, quoi. Bon, je pense que moi ça m'a refait penser à Todo et à My Besto Furendo, et donc c'était forcément positif. Parlons un petit peu de jeux indés en troisième sujet officiel, jeux à retenir, voilà. De jeux indés, alors il y a 4 trailers qui m'ont marqué cette semaine et que je voulais vous faire découvrir. Le premier, c'est Duckside. Et c'est pas des jeux indés, c'est pas parce que c'est des jeux indés. Vous savez, moi, je suis pas particulièrement défenseur des jeux indés pour le principe des jeux indés. Mais il faut avouer que des trucs différents et intéressants, ben, c'est souvent là-bas qu'on les trouve parce que c'est ceux qui peuvent prendre des risques. Et ces 4 jeux m'ont marqué pour différentes raisons. Le premier, c'est Duckside. Et chez IGN, ils ont intitulé le trailer « Duckside, Rust-like game where you play as a duck ». Et c'est vraiment ça. Duckside, c'est un jeu, visiblement, hein, de ce qu'on voit du trailer, c'est un jeu de survie qui semble aller assez similaire à Rust, sauf que tu joues des canards. Et si ils n'avaient pas fait des héros de ce jeu des canards, personne n'en aurait parlé. Mais personne l'aurait vu passer. Sauf que là, c'est des canards, et c'est des canards avec des casques de militaires, des armes, des machins. Mais c'est des vrais canards qui ressemblent à des canards, quoi. Qui sont morphologiquement marrants, morphologiquement comparables à des canards, sauf qu'ils ont des armes et des casques. Et c'est juste n'importe quoi, et ça a l'air marrant, je trouve. Qu'en penses-tu ?
Ouais, alors pour le coup, sur les 4 trailers que tu as mis, je pense que celui-là, c'est quand même le plus le jeu à gimmick qui à part les canards, je veux dire, à part les canards, ça a l'air d'être vraiment un croisement entre Fortnite, Warzone et voilà quoi. Enfin, et tu Rust, vois, quoi. Ça. Rust. Donc voilà, j'ai vraiment l'impression que c'est une sorte de jeu à gimmick et que est-ce qu'il y a un gameplay autour des canards, tu vois, spécifique, je suis pas sûr.
C'est pas l'impression que j'ai.
Après, bon, voilà, c'est rigolo.
Un autre trailer, je vous les mettrai dans la newsletter bien sûr ou dans le groupe WhatsApp du coup, puisque maintenant il y a un groupe WhatsApp, le channel WhatsApp. Le deuxième jeu dont je voulais parler, ou trailer en tout cas, parce que les jeux, on ne sait pas ce que c'est Incombini. Et là, vous sentez mon amour du Japon qui est...
La nostalgie du Japon qui revient.
Je vous avoue que ces dernières semaines, ces deux derniers mois, j'ai eu un petit peu tendance à me réfugier dans mon amour du Japon ça m'aide à oublier certaines choses et les coups de pelle. Et là, du coup, c'est un jeu qui est complètement un jeu de, vous savez, genre House Flipper ou ce genre de jeu de gestion d'un truc ou les trucs où on gère un restaurant ou une brasserie ou ce genre de truc. Sauf que, c'est un combini japonais. Alors, il n'est pas très moderne, hein, ce combini japonais, mais c'est un combini japonais et donc on sent l'ambiance du Japon. Pareil, le jeu, ils auraient fait un jeu de gestion sur quoi que ce soit d'autre qu'un combini, genre juste une supérette normale, supérette manager. Ouais. Tout le monde s'en serait foutu, quoi. On est d'accord. Sauf que, bon, là...
Non, mais je veux dire, là, récemment, il y a un jeu qui est sorti où tu gérais ton shop de ramen, et etc. Donc, on est complètement sur cette vibe nostalgie du Japon, d'un certain Japon. C'est sans doute un peu cliché, mais... Alors, je sais pas si c'est un jeu qui est japonais ou qui est fait par... C'est probablement pas un jeu japonais, ou si c'est un jeu qui est fait par des Américains ou des Occidentaux. Mais par contre, c'est vrai que... Ah, ça me parle aussi, parce que moi, c'est pareil, les combini, je les ai pas fréquentés, c'est un mot un peu fort, mais forcément, quand tu vas au Japon, tu vas dans les combini. Et je me rappelle encore qu'à mon dernier voyage au Japon, c'était avec ma femme, le soir, juste pour le plaisir, on allait se promener dans des combini, parce qu'on adorait regarder tout ce qu'il y avait à vendre et tout, c'était vraiment trop bien, quoi.
Co-brandé Xbox, c'est le genre de jeu qui sera peut-être dans le Game Pass.
Oui. Ouais. Bah oui, sans doute, oui.
En même temps, je ne pense pas que je passerai du temps dessus. Contrairement aux gens qui passent 60% de leur temps sur Fortnite, les jeunes, moi, j'ai
attends,
pas
c'est peut-être le
ça.
Futur Fortnite, hein, t'en sais rien.
Ah, peut-être, c'est vrai. On nous dit dans la chatroom, Monop Simulator, ça n'aurait pas forcément aussi bien marché. Peut-être. On ne sait pas. Et également, on nous dit que l'originalité du jeu de canard, de Dockside, c'est peut-être le vol. Effectivement, alors c'est vrai qu'on a les paravoiles dans les jeux, dans certains jeux, mais peut-être qu'on peut voler pour de vrai, c'est possible. Une barre de stamina pour le vol, pour pas qu'on puisse voler tout le temps. Là, on va passer aux choses sérieuses. Comment il s'appelle déjà celui-là ? Great God Grove. Alors, Great God Grove, c'est un truc super bizarre. Un style graphique, vraiment, il y a écrit jeu indé dessus, c'est du truc genre papier découpé à plat sur un décor en 3D. Dessiné, mais évidemment, on peut se déplacer en 3D. Et ça a l'air d'être un jeu... En fait, dans le trailer, tu vois que le personnage principal a un truc pour aspirer, une sorte de haut-parleur, mais qui aspire et qui renvoie des trucs. Et qu'est-ce qu'il envoie ? Et qu'est-ce qu'il aspire ? Les bulles de parole, style BD, des NPC. En fait, ce que disent les NPC, tu peux les aspirer et les renvoyer à d'autres. Et en fait, ce que ça fait, c'est que ça a l'air d'être un jeu de puzzle, où tu dois résoudre le puzzle non pas en en plaçant des pièces, mais en choisissant la bonne ligne de dialogue ou de monologue à envoyer à quelqu'un. Mais la forme est tellement bizarre, ça fait très Devolver le trailer hein, quand même. J'ai pas l'impression que c'est eux qui éditent, mais ça fait très très Devolver. Et le truc est complètement délirant, tu comprends pas bien ce que c'est, mais tu comprends juste qu'il y a un truc où tu aspires les bulles de dialogue et que tu peux les renvoyer à d'autres, et c'est d'une originalité assez folle, quoi. Enfin, ça a l'air, en tout cas, dans le trailer.
Ouais, certaines phases de dialogue me font même penser à Katamari Damacy dans l'esprit un peu absurde. Ça a l'air... Ouais, je pense que ça peut être drôle, et par contre, c'est vrai que c'est difficile de deviner le gameplay. Il y a... dans le jeu The Plucky Squire qui va sortir dans le lancement cette année, qui est chez Devolver, pour le coup, il y a aussi un truc un peu similaire où tu dois aller récupérer des mots pour pouvoir résoudre des énigmes, etc. Mais, sauf que The Plucky Squire a l'air d'avoir un scope un peu plus large parce qu'il n'y a pas que ça. Mais puis là, ça a l'air vraiment d'être. Enfin, on dirait vraiment un truc à la Monty Python presque en termes d'humour, ouais. Et tout. Je sais pas, faut voir.
Ouais, mais effectivement, il faut voir le trailer parce que c'est complètement délirant. Mais c'est vraiment là, genre, tu prends ce qu'a dit quelqu'un. Et tu dois l'envoyer à quelqu'un d'autre pour résoudre. Enfin, je sais pas, c'est juste. L'idée est intéressante parce qu'ils réagissent à ce que tu leur as envoyé comme ligne de dialogue. Enfin, bref, c'est rigolo. Et puis le dernier jeu dont je voulais parler, c'est Windblown, qui est le prochain jeu de Motion Twin. Vous savez que Motion Twin était le développeur de Dead Cells, avant qu'ils passent Dead Cells à une société qu'ils ont créée qui s'appelle Evil Empire, et avec laquelle les relations ne semblent pas hyper bonnes. Il y a des histoires de qui tire la couverture à qui. Motion Twin, c'est une coop, mais ça ne s'est pas super bien passé. Et Evil Empire, c'est une société normale et ils ne sont pas en... Bon, bref, il y a tout un tas d'histoires là-dedans. Mais Windblown, c'est le prochain jeu donc de Motion Twin, et ça pourrait être juste un roguelite en 3D. Venant des développeurs de Dead Cells, c'est pas surprenant, mais il y a un petit, vu que c'est de la 3D, t'as un petit peu de Hades derrière, c'est les deux notables, hein, Hades et Dead Cells. T'as l'impression qu'ils ont un petit peu graduated tout la 3D comme Hades, sauf que plus le trailer avance, plus le gameplay a l'air rapide et un petit peu délirant. Et à la fin du gameplay, à la fin du trailer, tu dis, mais ok, donc c'est vraiment un truc, ça a l'air limite d'être du speedrun, je sais pas, c'est hyper, hyper rapide dans les mouvements et dans les actions. Et en plus de ça, je crois qu'on le savait, mais il le remontre dans le trailer, tu peux jouer en multi, tu peux jouer jusqu'à 3 en même temps, et ça aussi, c'est notable. C'est pas le premier roguelite qui te permet de jouer à 3. Enfin, à plusieurs, mais quand même, le fait que ça soit Dead Cells, les développeurs de Dead Cells, tu ne peux que te demander ce que ça donne en pratique. Et pour tous ces jeux, il y a soit la sortie, soit une Early Access en 2024, si je ne me trompe pas, et c'est le cas ici aussi pour Windblown. Si ce n'était pas Motion Twin, je me dirais « Oh, bon, peut-être, mais vu que c'est Motion Twin, évidemment, tu accordes une attention accrue, on va dire.
Bah, tu m'étonnes. Enfin, ils ont montré qu'en termes de game feel, de gameplay, de sensation de combat et tout, ils sont au top, quoi. Après, moi, je t'avoue que j'ai un peu du mal avec la DA, enfin la direction artistique.
Un peu confuse, je trouve.
Qui me parle pas trop. Voilà, c'est très coloré, un peu baveux. Ça, c'est pas très bon goût, j'ai l'impression. Mais bon, après, peut-être que je m'en accommoderai. Mais j'ai quand même, je suis quand même curieux. Et le côté très rapide, c'est aussi intéressant. Faut voir comment c'est. Parce qu'en fait, quand on voit dans le gameplay, qu'on voit dans le trailer, il y a pas mal de phases de gameplay différentes aussi. T'as un boss en mode bullet hell, t'as vraiment des phases où tu vas très vite pour traverser le niveau. Donc, faut voir si c'est assez varié, quoi.
Donc, à voir, à suivre, effectivement. J'en profite pour parler de The Triple I Initiative, qui a fait un petit peu de bruit. The Triple I Initiative, c'est un showcase, donc un direct, qui va avoir lieu, je ne sais plus quand, dans quelques semaines, qui est mis en place par notamment Motion Twin ou Evil Empire, je sais même plus si c'est... Enfin, c'est Supergiant et Evil Empire, c'est ça, qui se réunissent pour faire un showcase de 45 minutes que avec des jeux indés. Et il y a une sorte de mini polémique sur alors c'est des jeux indés, mais c'est des gros jeux indés, et d'ailleurs c'est Triple I, donc c'est indé gros budget, et donc est-ce que c'est vraiment de l'indé, et les indés, les vrais indés, eux, ils sont laissés sur le côté, machin. Bon, bah oui, enfin moi je trouve ça intéressant.
Ils fatiguent, ces gens.
Ouais.
À tout le temps râler, jamais être content. Mais oui, après, non, mais ça s'appelle une éditoriale. S'ils décident de mettre en avant ces jeux-là, bah voilà, c'est comme ça. Après, oui, peut-être qu'il faut plus de place. Et enfin, je veux dire, de la place pour des tout petits jeux indés. Il y en a aussi pendant le Summer Game Fest. Alors le problème, c'est que c'est noyé dans des dizaines et des dizaines de trailers. Mais tout ce qui est Wholesome Direct et ses compagnies, tu vois, il y a aussi des tout petits jeux indés qui sortent, qui sont aussi mis en avant à ce moment-là. Donc voilà.
Alors, en fait, le truc, c'est le 10 avril, hein, pour être précis, le 10 avril à 7h heure de Paris, c'est 45 minutes de trailer. Il y a Pastèque Games aussi, il y a plusieurs Français dans le lot. Mais oui, mais forcément, enfin, je veux dire, c'est, tu ne peux pas gagner partout. Évidemment que les indés, les plus petits indés, ils ont moins de budget. Là, c'est des indés un petit peu plus gros qui sont mis ensemble pour montrer leur trailer. Bah oui, qu'est-ce que je te dis ? Enfin, je pense pas que qui que ce soit ait dit « Ah, mais c'est dégueulasse, machin », mais il y a la question, est-ce que quid des indés qui n'ont pas de budget ? Bah oui, enfin, oui, peut-être qu'il faut se poser la question, mais je sais pas, à un moment, c'est normal, il n'y a pas de budget, tu peux pas... Je sais pas, peut-être qu'il
faut. Quand t'as pas de budget et que t'es tout seul, tu fais balatro, et puis voilà, c'est tout.
Bah oui, bon... Bon, mais je veux dire, je ne veux pas minimiser les difficultés des indés qui ont... Mais tu vois, évidemment. Des gens comme... même Pastèque, qui ne sont pas hyper connus, bah, ils ont fait d'autres jeux avant qui ont eu un petit peu... Je veux dire, des gens comme... bon, Motion Twin, l'exemple... si, même Motion Twin, ils ont fait des tonnes de jeux avant. Ils étaient sur le mobile, ils faisaient des petits jeux...
Motion Twin existe depuis 20-25 ans. Enfin, ouais. C'est un très vieux studio.
Super Giant, ils ont fait genre 15 jeux... Pas 15 jeux, mais il y en avait 5 avant Hades. Et puis les jeux étaient relativement appréciés, même s'ils étaient plus confidentiels que Hades, évidemment. Enfin, voilà, quoi, ils sont construits, ils ont... Bon, bref, je voulais le mentionner, mais je trouve que la polémique... C'est même pas qu'il y a une polémique, c'est qu'il y a des questions un petit peu, et ça n'a pas lieu d'être. Enfin, pas lieu d'être. Peut-être que les questions sont bonnes à poser, mais c'est quand même cool de voir AAA, des indés, des gros indés qui se réunissent pour... Puis ça relance la question de qu'est-ce qu'un jeu indé, peut-être. Voilà pour les trois grosses news de notre épisode. On va continuer avec les jeux auxquels on a joué ces derniers temps. Mais avant ça, je vous rappelle que vous pouvez soutenir l'émission sur Patreon, patreon.com/rdvjeux, évidemment. Si vous appréciez ce qu'on dit, les angles un petit peu différents qu'on apporte parfois, enfin un petit peu différents, des analyses judicieuses. Est-ce que ce sont des analyses judicieuses qu'on vous offre avec cette histoire d'études sur le jeu vidéo dont on a vu des interprétations qui, à mon sens, n'étaient pas tout à fait justes ? Est-ce que vous vous dites « Ah oui, en fait, j'avais pas pensé à ça comme ça » Est-ce qu'avec Stellar Blade, ce compte-rendu, surtout la référence à Jujutsu Kaisen, vous a paru judicieuse ? Eh bien, peut-être que vous direz « Bah oui, ça vaut bien un petit euro. Allez, hop !» patreon.com/rdvjeux. Si vous voulez soutenir l'émission, c'est par là que ça se passe. J'apprécie votre soutien et je vous remercie très chaleureusement. Allez voir, le lien est dans les notes de l'émission. Vous pouvez tout de suite aller regarder ou quand vous rentrez chez vous, vous mettez les clés dans le bol, ça fait cling et là vous dites cling, Patrick, je vais sur mon ordi ou je vais sur mon téléphone, patreon.com/rdvjeux. Un petit euro, deux petits euros, trois petits euros, c'est pas grand-chose pour vous. Ou si c'est grand-chose pour vous, bah, surtout ne faites pas de folie, hein, c'est pas la peine. Mais si c'est pas trop grand-chose pour vous de vous séparer d'un café ou d'un Mars, tiens, par semaine, un petit peu de chocolat en moins, ça fera pas de mal. Eh ben, patreon.com/rdvjeux. Merci à vous tous et à vous toutes.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Et on passe à la partie dont je retrouve le jingle tout de suite. C'est ça, c'est... les jeux auxquels on joue en ce moment. Alors, il n'y en a pas énormément, mais on va parler de ce jeu que j'ai vu passer également sur mon flux Twitter plus d'une fois. Midnight Scenes, A Safe Place.
Yes.
De quoi s'agit-il ?
Ouais. Ouais, alors juste avant, il y a Scarou qui dit sur le chat, et il a raison que. Alors, ça n'a pas été confirmé, mais c'est une forte rumeur que Evil Empire, il travaille sur un roguelite Prince of Persia avec Ubisoft actuellement.
Alors, je me demandais si ce n'était pas un 1er avril. C'est pour ça que j'ai
non, pas. Non, c'est sorti pas, après. Il faut doublement vérifier, mais je ne crois pas. Et c'est en plus que c'est relativement crédible, je trouve. Donc, je trouve que c'est un match qui serait assez logique. Donc,
Prince of Persia. C'est possible.
Je crois pas que ça a été confirmé, mais il y a une rumeur, un truc un peu assistant, donc c'est peut-être à surveiller. Ouais. Donc voilà. Donc Midnight Scene, ouais. Alors je suis même étonné que tu me dises que tu l'as vu passer sur Twitter.
Non, je me suis trompé en fait. Moi, je pensais au truc qui ressemble à, enfin le truc de streamer là où il faut faire une vidéo qui fait peur. Bon, bref, c'était pas
le beau truc là. C'est un jeu gratuit. Non, rien à voir. Alors là, en fait, moi, je suis content parce que
ce jeu dont tout le monde parle.
C'est un jeu qui va te sortir. C'était un jeu gratuit à la façon Phasmophobia, un petit peu dans le même délire, ouais.
Je sais plus. Ouais, si quelqu'un sait de quoi on parle dans la chatroupe, dites-nous que je mentionne le nom. Mais bon, bref.
Ouais, je sais pas. Ouais, donc là, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que là, je te parle de Midnight Scene Safe Place, mais c'est surtout l'occasion de parler de Midnight Scene en général. Donc, Midnight Scene, c'est une série de jeux d'aventure avec des, on va dire, de fortes composants fantastiques horrifiques qui ont plusieurs parties pris que je trouve très intéressantes. Donc déjà, c'est fait par une personne qui s'appelle Octavio Navarro, qui est à la base un directeur artistique. Il a travaillé sur Thimbleweed Park, donc avec Ron Gilbert. Donc lui, disons que c'est un spécialiste du pixel art. Et depuis quelques années, en fait, il a lancé une série qui s'appelle les Midnight Scene, qui se présentent vraiment comme des petits épisodes de séries d'horreur que tu avais à l'époque à la télé, genre La Quatrième Dimension, Les Contes de la Crypte, etc. Avec à chaque fois donc un narrateur qui va te présenter l'histoire du jour et ensuite tu vas jouer cette histoire. Donc c'est des point and click qui sont hyper narratifs dans le sens où c'est pas du tout des point and click qui ont la moindre difficulté, ça, c'est clairement. Si vous cherchez du challenge, il ne faut pas aller là-dedans parce que c'est des choses, souvent, la plupart du temps, c'est récupérer l'objet de la pièce à côté pour l'amener à côté, donc il n'y a pas de souci. Par contre, si moi j'aime vraiment beaucoup cette série, c'est que c'est vraiment tout simplement hyper bien écrit, hyper sympa à suivre. En fait, tu les fais en général une soirée parce que ce qu'il faut préciser aussi, c'est que ce sont des jeux très courts. Celui-là, par exemple, dure à peu près un peu moins de 2 heures et c'est un des plus longs. Donc, clairement, l'avantage, c'est que c'est des jeux que vous pouvez faire une soirée. Et le dernier argument, c'est que c'est des jeux qui coûtent entre 2 et 5 euros. Donc c'est vraiment des trucs qui coûtent rien du tout et qui se font comme ça, on a une soirée comme. En fait, tu joues à ces jeux comme si tu allais te regarder un film d'horreur à la télé un soir avec, pourquoi pas, avec des copains. Et voilà. A Safe Place est probablement l'épisode. Alors, je sais pas si c'est le meilleur, mais c'est un de mes préférés. Mais c'est aussi genre, le plus sombre en termes d'histoire. Donc, en fait, le pitch il est plutôt intéressant. C'est-à-dire, on incarne un jeune homme qui vit dans sa chambre depuis à peu près un mois et il n'arrive pas à sortir de sa chambre. Dès qu'il veut sortir de sa chambre, il est assailli par des sortes de visions cauchemardesques absolument horribles, qui fait que il est obligé de rester dans sa chambre. Il habite chez ses parents, il faut préciser, et ses parents régulièrement viennent taper à sa porte pour essayer de raisonner, etc. Bah alors en fait ouais, c'est ce qu'on pourrait penser, sauf que derrière tu sens qu'il y a un truc beaucoup plus sombre que ça quoi. Et donc régulièrement il parle à ses parents. Il a aussi sa meilleure amie qui lui envoie des messages, et d'ailleurs ça donne lieu à des scènes très chouette de dialogue par SMS avec ta meilleure amie, où tu regardes un film le soir avec elle pour essayer de te remonter un peu le moral et tout. Tout ça nous amène bien sûr à une conclusion que je ne dévoilerai pas, mais qui est quand même assez puissante. Donc voilà. Donc franchement, moi je conseille ce jeu. Alors oui, c'est Indie Games The Game, comme tu dis Patrick, parce que là on est vraiment sur des jeux indés pour le coup ils sont deux là, d'ailleurs ils étaient deux à faire celui-là. Mais c'est juste que, en fait, c'est le genre de jeu, tu lances, tu sais que tu vas le faire d'une traite parce que c'est super sympa. L'histoire est cool, c'est bien rythmé, il y a un sens, il y a un vrai sens de la mise en scène. C'est-à-dire qu'il arrive à faire un jeu qui se passe à 80% dans une seule pièce, dans la chambre du personnage, et à rendre ça quand même passionnant parce qu'il y a un vrai sens du rythme à la fois dans l'écriture et dans la mise en scène, par rapport au plan, par rapport à des petites scènes comme ça que tu vas avoir. Et voilà. Alors c'est pas un jeu qui fait peur dans le sens jumpscare et ambiance vraiment terrorisante, mais par contre c'est un jeu vraiment où il y a vraiment une sensation de malaise. Il y a un truc qui, tu te dis pourquoi est-ce que ce mec il est enfermé dans sa chambre, et c'est et ça te tient en haleine vraiment jusqu'au bout, quoi. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup. Et vraiment, si vous voulez, donc je conseille vraiment de découvrir la série en commençant. Alors celui-là, on peut tout à fait commencer par celui-là, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que chaque épisode, c'était implicite, mais chaque épisode est indépendant. Tu peux les faire dans l'ordre. Il y a pas de, c'est vraiment des histoires complètement différentes à chaque fois. Et si vous avez aimé cet épisode, je vous conseille de faire The Nanny, la nounou, et From the Woods,
ah, d'accord,
pour le coup. Si.
Tu dis The Nanny, moi je suis tellement dans le japonais que je suis dans The Nanny.
Non, pas ce Nanny là. Okay. Non, le Nanny américain. Okay, The Nanny, je sais pas comment on prononce. Okay. The Nanny et From the Woods, qui sont pour le coup les seuls qui ont un lien scénaristique. Il faut commencer par The Nanny et faire From the Woods, parce que l'un est la suite de l'autre. Et encore une fois, franchement, c'est des jeux à 5 balles, quoi. Donc honnêtement, vous avez rien à perdre à en tenter un si ça vous plaît. C'est-à-dire, c'est exactement ce qui s'est passé chez moi. J'ai commencé par From the Woods et ça m'a plu, et du coup, j'ai fait tous les autres. Les deux premiers sont sympathiques, mais ils sont un peu plus dispensables. Mais les trois derniers, c'est vraiment, moi j'adore. C'est vraiment une série que j'aime beaucoup, parce qu'il a réussi à avoir un style, à un truc avec sa façon de raconter des histoires, avec justement peu de moyens. C'est hyper efficace, quoi. J'aime vraiment beaucoup.
Du coup, il y en a combien en tout?
Il y en a cinq. Il y a cinq épisodes. Il y en a cinq. En fait, les deux premiers sont vraiment très courts. C'est vraiment des jeux qui vont durer 30 minutes. D'après. C'est vraiment très, très court, mais ils coûtent encore moins cher. Et à partir du troisième, donc, qui est The Nanny, ça devient un peu plus, on va dire, il y a un peu plus d'ambition en termes d'histoire, en termes de durée de vie, etc. Mais c'est des jeux qui sont, je te dis, ça dure maximum 1h30, 2h, quoi. Et pour moi, c'est un argument. Pour moi, c'est un truc positif. Au contraire, tu sais que c'est des jeux que tu vas faire en une soirée. Tu vas passer un bon moment, et voilà.
On voit que t'es pas un,
que quoi
un ah, je suis pas, j'ai 60% qui passe son temps sur Fortnite.
Je suis pas du tout de 60%. Et je pense pas qu'on verra un jour ces jeux-là dans la moindre liste. Mais pour le coup, c'est des jeux qui ont quand même leur noyau dur de fans, parce que c'est Octavio Navarro, c'est un créateur que je suis depuis longtemps. Et c'est vraiment. Et d'ailleurs, il a fait d'autres jeux, il a pas fait que ça. Allez voir ce qu'il fait, c'est super, quoi.
Et deuxième question, c'est, tu l'as peut-être mentionné, il n'y a pas de gameplay, c'est juste narratif.
Alors, il y a un peu de gameplay quand même, mais le maximum que tu vas avoir, oui, effectivement, c'est aller récupérer un objet pour aller le mettre à côté. Il peut y avoir un peu d'interaction quand même, mais alors, ouais. Celui-là est particulièrement...
On va parler d'interaction, d'interaction plus de gameplay. Plus que de gameplay.
Voilà. T'as pas vraiment d'énigmes compliquées. Celui-là est vraiment très narratif, d'ailleurs. Et pour le coup, les précédents The Nanny et From the Woods ont un peu plus de gameplay. Mais oui, voilà, c'est. On est sur. Tu vois, il y a quelqu'un qui dit sur le chat the Dark Picture Anthology version pixel art. Il y a un peu de ça, parce que on est sur vraiment un truc. On est là avant tout pour l'histoire.
Ouais.
Et c'est de ce point de vue-là, c'est vraiment formidable, quoi.
Faudrait un terme pour ce type de jeu, c'est pas du walking simulator, ouais. C'est pas du visual novel,
c'est du point and walking.
Ouais.
Je sais pas si ça marche, mais
c'est
bon.
Du watching simulator, TV show simulator, c'est presque comme un TV show. Bon.
Ouais, ça a encore un peu autre chose. Ouais.
Le jeu que j'évoquais, qui est le buzz du moment, qui est pas aussi gros que comment il s'appelait ce truc où tu explores dans l'espace et tu parles avec tes amis.
Lethal Company.
Lethal Company, c'est un peu dans le style de Lethal Company. Ça s'appelle Content Warning. Merci beaucoup,
voilà,
Nathan. C'est Content Warning. En fait, c'est un petit peu, tu es un YouTuber qui va faire de l'urbex ou du, tu vois, dans la ville. Et puis tu dois filmer, tu dois faire une vidéo la plus effrayante possible. C'est le truc de streamer par excellence. Ça marche pas mal. Donc voilà, ça s'appelle. Je mettrai aussi le lien dans la newsletter. Ça s'appelle Content Warning.
Je crois qu'il était gratuit jusqu'à récemment, et je crois qu'il est devenu payant. Enfin, il y avait un truc comme ça, en fait.
D'accord. Et tu vois, tu rencontres des trucs qui font peur, et c'est pas mal foutu. J'ai joué à Overwatch 2, figure-toi. Incroyable, non ?
Attends, je connais pas. Tu peux peut-être me dire ce que c'est ou pas ?
C'est un jeu qui n'a pas réussi à être dans les 60% de ton jeu, alors que c'est un jeu service qui a plus
alors
de 6
déjà,
ans.
Alors déjà, voilà.
Tu vois, déjà, un jeu raté. En fait, pour le 1er avril, ils ont fait un truc qui est, je pense, deux choses. D'une part, le meilleur 1er avril de l'histoire du jeu, et peut-être des jeux Blizzard. Il y a eu des trucs sympas les 1er avril, mais là, il est vraiment bien. Et le meilleur mode alternatif de l'histoire d'Overwatch. C'est un mode qui s'appelle Balanced Overwatch. Il est disponible pendant une semaine. Et en fait, c'est un mode où ils ont un peu modifié chaque personnage en lui donnant soit des propriétés à certains coups un petit peu différents, soit carrément le personnage est un peu différent. Et ils ont presque créé, en fait, des... tu sais, Ryu et Ken, au fur et à mesure du temps, ils sont devenus des personnages différents. Ils ont créé pour chaque personnage la version Ken du personnage original qui serait Ryu, qui fonctionne différemment avec les mêmes fondamentaux. Et du coup, on a des trucs comme, je ne sais pas, Moga, qui est le dernier tank. Il est tout petit, mais il fait beaucoup plus de dégâts. Il a des propriétés un petit peu différentes, mais tout petit. Genre, il fait un quart de la taille. Normalement, il est minuscule. Il y a, par exemple, Mercy. Elle peut soigner et, en même temps, avec son bâton, elle tire des petits projectiles pour faire des dégâts. Donc, tu es en train de soigner. En même temps, tu fais des dégâts. Il y a Moira. Ils ont inversé le soin et les dégâts. Et Moira, normalement, elle fait des soins avec une sorte de spray qui fait sur plein de personnages. Et là, le spray, eh ben, ça fait des dégâts. Et le soin, c'est juste sur une personne. Ils ont, par exemple, Thorbjorn, qui envoie sa tourelle, et bien la tourelle, il peut la mettre n'importe où, sur des murs, sur des véhicules, sur des murs ou sur des personnages, même sur sa tête. Genre, il peut envoyer la tourelle en l'air, elle lui retombe sur sa tête, ben elle est collée à sa tête, sa tourelle. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Il y a, par exemple, Zenyatta, je joue beaucoup de soigneurs. Zenyatta, quand il appuie sur son clic droit pour charger et envoyer plusieurs boulettes, il s'envole petit à petit. Il s'envole et au début, tu te dis, mais enfin, ça sert à rien, quoi. Ça sert à quoi de s'envoler? Il s'envole, ça lui permet de se cacher derrière un endroit pour s'envoler et faire des dégâts en étant caché. Il peut atteindre des endroits qu'il ne peut pas atteindre autrement. Enfin, bref, il y a plein de petits trucs bizarres comme ça. Et de l'aveu de tous ceux, genre, ils ont transformé Brigitte en tank. Elle est plus grosse, elle a son gros bouclier tout le temps. Enfin, bref. De l'avis de tous ceux qui l'ont testé, alors c'est pas que c'est un mode auquel vous allez jouer jusqu'à la fin des temps, hein, mais c'est un mode qui est vraiment sympa et rigolo à tester, et tout le monde l'a trouvé sympa, de ce que j'ai vu, tout le monde a dit « Ah ouais, vraiment, c'est marrant, ça fonctionne, c'est rigolo ». J'y ai passé quelques parties et je me suis super bien amusé. Si vous n'avez pas joué à Overwatch depuis un moment, ou si vous n'avez pas testé ce mode, c'est peut-être l'occasion. Franchement, ça fonctionne pas mal du tout. Donc ça, c'est Balanced Overwatch. Et pour y accéder, il faut appuyer sur Placeholder Text dans les menus du jeu. Ils ont mis Placeholder Text. Au début,
oula, ah oui, c'est bizarre, oui.
Je me suis dit, oh mais bravo, hein, super pro les gens de Blizzard, franchement, ouais. Tout fout le camp. Bah non, en fait, c'était pas mal.
Oui. Vas-y. Pardon.
Non, j'allais dire encore un truc. Ramattra, ils ont inversé son ultime et... sa première capacité, ce qui fait que tu peux utiliser son ultime, alors avec des restrictions, mais tu peux l'utiliser toutes les 12 secondes. C'est n'importe quoi, c'est hyper balanced. Étrangement, c'est beaucoup plus balanced qu'on aurait pu penser, mais c'est très rigolo. Pardon, vas-y.
Non, je disais juste que moi, j'ai mis qu'un jeu dans ma liste parce qu'en fait, je me suis remis à Diablo 4 et je voulais pas en parler là parce que, bon voilà, mais du coup, je suis un peu retombé dans Diablo 4 et c'est pour ça aussi que...
Ah, mais tu aimes
grand chose d'autre. Ouais, en fait, oui, j'aime. En fait, en vrai, tu vois, en fait, je m'y suis remis il y a pas longtemps parce que je m'étais rendu compte que j'avais jamais terminé la campagne principale et je me suis dit, bon, quand même, c'est dommage. Et donc là, je m'y suis remis il y a pas longtemps et je trouve que le endgame, là, et du coup, là, j'ai reroll avec un nouveau perso pour accéder directement à la nouvelle saison. Et je trouve que le endgame est quand même hyper bien. Ils ont vraiment rectifié le tir par rapport au jeu d'origine, que je trouve même plutôt bien aussi, hein, en vrai. Hein, parce qu'il y a vraiment énormément de contenu, énormément du loot. Alors, pour le coup, le loot, je trouve pas forcément plus intéressant, mais juste le feeling du jeu, quoi. Et vraiment, je le trouve excellent. Enfin, en termes de combat, en termes de sensation de combat. Enfin, moi, j'ai fait une voleuse, là, que j'ai montée au niveau 52, là. Déjà de base que je trouve hyper agréable à jouer, là j'ai commencé avec un barbare, je trouve que et pour le coup même s'il y a les premières saisons je les ai pas faites de ce que j'ai lu, apparemment il y a quand même beaucoup de très bonnes saisons qui ont été faites là et je pense que je vais jouer, bah ça va faire partie des 60% là. Alors, il est pas en liste mais ça va faire partie de ça va être mon Fortnite à mon avis cette année, je vais sans doute y jouer un peu comme ça tout le long de l'année parce que c'est globalement quand même une réussite parce que et en fait ce qui m'a fait et je passe à troisième jeu, ce qui m'a fait rejouer à Diablo 4 c'est que j'ai essayé vite fait.
Je mentionne que Diablo est désormais sur le Game Pass. Hein. C'est...
Ouais, ça y est, c'est vrai.
Donc, si vous voulez le tester, vous pouvez. Si vous voulez augmenter un petit peu les 60%, ça va rester les 60%. Hein. Si vous voulez faire passer Diablo 4 dans les 60%, allez-y, vous pouvez jouer gratuitement.
C'est clair.
Enfin, gratuitement.
Si vous avez le Game Pass. Et donc, ce qui m'a fait rincer à Diablo 4, c'est que, alors, pour le coup, c'est qu'en fait, j'ai essayé un jeu qui s'appelle Last Epoch. Je sais pas si tu vois ce que c'est.
Ah oui, oui, bien sûr.
Et pour le coup, alors, j'y ai pas encore assez joué pour vraiment me donner un avis, c'est pour ça que j'en parle pas. Mais pour le moment, je trouve ça assez mou et pas terrible. Et ça m'a donné envie de jouer
pourtant,
à Diablo 4, en fait.
Il a eu de bonnes reviews, Last Epoch.
Ouais, je sais. Mais en vrai, j'en parle pas parce que je te dis, j'ai pas joué longtemps. Donc, je préfère, surtout un Kenslash, je peux quand même jouer un petit peu. Faut jouer pas mal pour pouvoir avoir un avis. Donc, je pense que je vais me remettre sur Last Epoch, mais forcément, je trouve qu'à côté de Diablo, en tout cas, en termes de nervosité des combats et de, voilà, de feeling, juste de feeling de combat, c'est quand même pas au niveau Diablo 4. Quoi. Donc, voilà.
Très bien.
Donc, c'est tout. Finalement, je t'ai passé d'autres jeux.
Mais écoute, on mettra les liens vers les trailers de tous ces jeux dans la newsletter. Donc, vous n'avez pas besoin de retenir tout ça. Vous avez juste besoin de vous abonner à la newsletter. C'est très simple. Soit dans les notes de l'émission, soit sur notepatrick.com. Et entre parenthèses, j'ai aussi dans la news, j'ai créé une archive de la newsletter où il y a les trois dernières newsletters. Je ne peux pas en faire plus, malheureusement. C'est sur newsletter.notepatrick.com. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'émission du channel WhatsApp et des archives de la newsletter. Si vous voulez aller regarder ça, ça sera dans les notes de l'émission ou sur notepatrick.com. Non, il n'y a pas le WhatsApp. Donc, regardez dans les notes de l'émission ou sur le site web. Vous aurez les liens vers tout ça et les archives de la newsletter si vous voulez regarder ça ou simplement si vous voulez pas vous abonner à la newsletter, vous pouvez aller regarder là directement, il y aura la dernière newsletter chaque semaine sur ce site là qui sera accessible en preview. Enfin en preview, il y aura quasiment tout sauf les trucs Patreon. Mais... Et puis je vais juste mentionner que j'ai aussi joué à la démo de Stellar Blade et que comme je le disais tout à l'heure dans le sujet, j'ai trouvé ça... Bon, je suis sûr qu'il y a des gens qui adorent ce genre de jeu, mais moi, vous vous souvenez que j'avais pas aimé Nier Automata. On est vraiment dans une ambiance proche de Nier Automata. On sent que le développeur, en fait, il adore Nier Automata. Et d'ailleurs, on a un petit peu la même ambiance soubrette dans Nier Automata, mais bon. Beaucoup moins prononcée, hein, quand même, évidemment. Mais donc, il y a un petit peu ça. Et puis, surtout, Sekiro, la difficulté des timings, Stellar Blade, c'est pas un jeu pour les gens qui ont pas envie d'un jeu difficile. Hein. Il faut bien le comprendre. C'est un jeu qui est sur la ligne des Souls-like, enfin de Sekiro. Et donc moi, j'avais pas hyper envie de m'imposer ça. J'avais pas hyper envie de mettre à fond sur ça pour comprendre les timings, machin. J'ai pas le temps. J'ai déjà fait des Souls-like et j'ai pas envie d'un. J'aime pas assez les Souls-like pour faire un side Souls-like et j'aime pas assez les personnages sexualisés pour m'adonner à Stellar Blade. Donc voilà, ça a l'air sympa. Si c'est votre truc, allez-y. Bon, moi je pense que je sauterai. À mon avis, sa note métacritique, ça va être 60, entre 75, autour de 75, voilà. Autour de 75, je pense. On verra. Ma prévision, c'est 75. Et pour Overwatch, j'ai oublié de préciser que, comme nous le disait Guy Catartiné dans le Discord, il y a des bonus dans le PlayStation Plus, donc vous pouvez aller sur le PS Store et mettre acheter, télécharger les bonus. Vous jouez sur PlayStation et il est disponible partout. Il y a des skins, il y a des sauts de passe, ce genre de choses. Donc, si ça vous intéresse, vous savez où aller. Merci Guy Catartiné. Moi, j'avais pas vu passer le truc. Allez, le reste de l'actu, on va faire rapidement. Qu'est-ce qui se passe ? D'abord, un erratum. My bad. J'ai dit une grosse bêtise la semaine dernière, j'aurais dû d'ailleurs faire cet erratum en début d'émission. Merci à Xertes de me le préciser, de me le rappeler, de me le dire. Amy Henning, je disais la semaine dernière, mais enfin Amy Henning, elle a même pas fait Uncharted 2, c'est... comment il s'appelle ?
Druckmann,
c'est Neil Druckmann qui est venu reprendre. Non, pas du tout, Patrick.
Ah oui, non, Druckmann, c'est le 4.
Druckmann, c'est le 4. Voilà, c'était après Last of Us.
Si j'avais été là, je t'aurais corrigé, Patrick.
Bah oui, oui, il aurait fallu. Non, mais personne, ni dans la chatroom, ni rien. Il n'y a que Xertes qui me l'a dit. Et merci à lui. Elle a fait effectivement Uncharted 1, alors qui était sympa, mais sans plus. Un, et puis le 2 et le 3, c'est elle qui était derrière à 100%. Donc je retire ce que j'ai dit la semaine dernière et je m'excuse platement. Rien qu'Uncharted 2, pour le coup, ça vaut largement qu'on s'intéresse à... Enfin, ça légitimise le brio de la personne et le respect qui lui est dû. Donc, mes excuses les plus plates, effectivement. Elle a, elle a fait plein de jeux, et notamment Uncharted 2, qui est un des jeux les plus mémorables de l'histoire du jeu vidéo. Donc, voilà, c'est dit. Et puis, puisqu'on parle de Sony... Il y a eu une info marrante qui est tombée cette semaine. C'est la confirmation par Jim Ryan, qui quitte Sony, vous le savez, ces jours-ci, ces semaines-ci, qui est le CEO de PlayStation, qui a confirmé qu'il y avait le chiffre de vente de PlayStation 2 qui était un petit peu sujet à controverse ces dernières années, parce que le dernier chiffre officiel annoncé par Sony, c'était 155 millions, et il y avait eu plus de ventes après ça. Et en fait, Ryan a confirmé qu'ils avaient vendu 160 millions de PlayStation 2, et il y avait des spéculations sur, alors oui, ils ont annoncé les chiffres mélangés de PlayStation 3 et PlayStation 2, c'était sans doute pour brouiller les pistes par rapport à la PS3 qui se vendait pas bien au début de sa vie, et bref, là, on a la confirmation que c'est 160 millions, Judge EX Daniel Ahmad a fait un très bon détail de où on en était et comment on spéculait sur les chiffres de vente de PlayStation. Il a fait un très très long tweet qu'il conclut par en résumé, mais on s'en fout, allez vous amuser pendant le week-end ou quelque chose, arrêtez de vous prendre la tête pour des chiffres. Ce que je trouve, mais oui, il est super long. Genre,
surtout que 155, 160 millions, enfin c'est pas non plus, tu vois.
C'est, alors en fait, bon, il a plein de sources, super bien sourcé son tweet et tout, mais bref. C'est intéressant parce que la PlayStation 5, en fait, est la console la plus vendue de l'histoire. Pardon, la PlayStation 2 est la console la plus vendue de l'histoire. Et elle est suivie de pas trop loin par la DS. Et du coup, il y avait une petite spéculation. Est-ce que peut-être, en fait, la DS, est-ce qu'elle aurait presque... Et en fait, non. Là, ça met la PlayStation 5, la PlayStation 2 bien devant. Donc, bon, voilà. C'est juste que c'est la console la plus vendue de l'histoire à 160 millions. C'est rigolo d'avoir... Et puis, c'est un chiffre intéressant à voir dont on a la confirmation. Et il est possible qu'il y en ait un peu plus qui ait été vendu. Lui, il a dit 160 millions. Rockstar a rajouté des jeux à l'abonnement GTA+. GTA+, c'est un abo à quoi, 5 euros par mois, quelque chose comme ça,
qui vous permet d'avoir... Tu m'apprends qu'il y a un abonnement GTA+. Hein.
Et je ne savais même pas. Moi, je l'avais oublié. Je le savais.
Ils ont un abonnement partout, les mecs, ouais.
Et en fait, ils ont ajouté des trucs au fur et à mesure depuis l'arrivée de l'abonnement. Ça vous donne de l'argent et des trucs spéciaux dans le jeu, hein, dans GTA Online, tous les mois. Et ben en fait, il y aura des jeux maintenant qui vont être inclus. Alors, il y avait déjà GTA Trilogy, il y a Red Dead Redemption, etc. Et là, il va y avoir Bully, L.A. Noire qui vont être inclus d'ici la fin de l'année. Je me demande s'ils ne sont pas en train de faire un truc pour justifier un abo GTA Plus avec la sortie de GTA 6. Comment monétiser
alors là,
ça?
Ce serait pas impossible. Ouais.
Je pense qu'il y a un... Parce qu'on se demandait dans
Inscrivez-vous à GTA Plus et bénéficiez d'un early access d'une semaine à GTA 6, tu vois, ce genre
par
de...
Par exemple. Parce que ça va être compliqué de passer de GTA Online 5 à GTA Online 6, à moins de juste faire un... Parce que tu peux... c'est compliqué de faire un update d'un jeu service. Potentiellement juste upgrader le moteur graphique ou ce genre de choses, mais tu te prends l'héritage de tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Et si tu fais table rase avec un truc genre Cataclysme ou Fortnite qui change tout tous les quelques mois, tu peux. Mais c'est difficile de pas perdre tous tes joueurs, parce que là, sur GTA Online, il y a des gens qui ont des trucs depuis, 10 ans maintenant. Et si tu leur dis, oui, bon, bah, avec GTA 6, tout change, Et donc, vous avez tout perdu parce que tu ne veux pas continuer à supporter techniquement tout ce que tu as fait depuis longtemps. Ou alors, tu laisses GTA V quelque part disponible et tu rajoutes un truc GTA 6, GTA 5, tu n'y touches plus.
Bref.
Mais tout ce qui se passe de nouveau, c'est compliqué. Et si tu fais un GTA Plus qui inclut plein de choses, il fait que tu as en plus GTA 6, je ne sais pas, peut-être que ça peut motiver. Ou... Je sens qu'il y a un truc. Suicide Squad est sauvé. Suicide Squad, Kill the Justice League, a reçu son premier nouveau personnage, le Joker, et tout à coup, le jeu avec le content drop est transformé pour le mieux. C'est complètement la même chose, que c'est du grind vraiment lamentable et que ça n'a aucun intérêt. Les réactions à ce premier personnage de Suicide Squad étaient assez dramatique. Et peut-être qu'on pourrait parler, peut-être que dans un after show, là, on va parler des jeux services et pourquoi ça ne marche pas, et pourquoi personne, aucun de ces gros studios n'arrive pas à faire de jeux services, ce n'est pas les premiers avec Suicide Squad. Je vais faire ça comme discussion dans l'after show aujourd'hui, vous savez, l'after show est pour les Patreons, le petit contenu bonus pour les Patriotes. Mais oui, donc Suicide Squad, le Joker, j'ai rarement vu un truc aussi mal reviewé. C'est assez dramatique.
Compliqué ce jeu quand même.
Et Tekken 8 a discrètement ajouté un Battle Pass. À peu près deux mois après la sortie. Très discrètement, genre, hop, et voilà un petit Battle Pass. Alors, c'est que des trucs cosmétiques, machin. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Mais c'est marrant que ça arrive un petit peu après pour monétiser le jeu sur le long terme, c'est normal. Mais il y a aussi les personnages que tu peux acheter. Il y a des... Bon, bref. Un petit battle pass en plus. C'est comme ça. Discord va vous proposer des quêtes pour les jeux. C'est un petit peu de la pub, en fait. De la pub qui sera des quêtes pour vos jeux préférés, pour avoir des objets gratuits dans le jeu. Si vous faites des trucs sur Discord, Discord avait dit qu'il ne ferait pas de la pub. Et ben voilà, la pub arrive. Alors, dans une forme cool, peut-être, mais voilà. Sega Europe.
J'ai toujours été étonné, plutôt interrogatif sur... Comment Discord gagne de l'argent? Parce que il y a pas de pub, il y a l'abonnement Nitro, mais je suis pas sûr que ce soit suffisant. Mmh. Ouais, mais est-ce que c'est suffisant? Je connais pas les chiffres. Est-ce que c'est suffisant pour faire vivre une boîte? Parce que je pense qu'ils sont quand même nombreux. Alors ils ont été rachetés. Non, ils ont pas été rachetés par Sony. Il y a Sony qui a mis de la thune dans Discord il y a quelques années maintenant.
Ils ont investi.
Mais je me dis c'est quand même typiquement ce genre de boîte où je pense pas qu'ils soient rentables, quoi. Enfin, c'est tellement populaire Discord en plus, mais vu que personne paye. Je sais pas.
Je ne sais pas, ça fait des serveurs à faire tourner, je ne sais pas. Avec les boosts et les... Je sais, oui, j'en ai aucune... Ils ont des partenariats avec les trucs cosmétiques que tu peux... Je ne sais pas.
Ouais, pas du tout. Certes.
Et puis on conclut avec Sega qui licencie 240 personnes en Europe. Gearbox qui va aussi supprimer quelques postes après son rachat par... c'est qui déjà? C'est 2K qui a racheté Gearbox, je crois.
C'est 2K qui a récupéré Gearbox.
Take-Two, je dis 2K. Mais enfin bon, c'est un peu...
Oui, enfin 2K, oui, Take-Two, oui.
Et je mettrai dans la newsletter un article de Insider Gaming sur la culture de travail extrêmement toxique au sein de Ubisoft dans le studio qui développe Ex Defiant. Alors, c'est un rapport d'un média, mais on a l'impression de lire le rapport de c'était qui ? C'était Le Monde et Libé qui avait fait ensemble, sorti le rapport sur Ubisoft il y a quoi, 2-3 ans maintenant ? On a l'impression que c'est pile la même chose. Alors, c'est l'historique du truc, ça dure depuis longtemps, mais ça vient jusqu'à maintenant. C'est assez fatigant, éreintant, édifiant. Je vous recommande d'aller y jeter un coup d'œil. C'est Insider Gaming qui a sorti ça. Bon, c'est Ex Defiant qui a plein de problèmes pour plein de raisons, mais ouais, c'est n'importe quoi du début à la fin, quoi. Et voilà pour... Je voulais pas finir sur une note. Dis un truc sympa pour
c'est
finir,
vrai que... Lika. Attends, tu finis sur des licenciements et une culture d'entreprise toxique. Vraiment, waouh. C'est vive le jeu vidéo, quoi.
C'est pire que juste une culture toxique. C'est parce que c'est chez Ubisoft qui a déjà été épinglé il n'y a pas longtemps.
Plus,
et qui,
mais
tu vois, c'est...
Ouais.
Bon.
Ah bah c'est désespérant, mais c'est... Bon, bref.
Dis un truc sympa.
Bah, Bah sinon, bah écoutez, un truc sympa, je suis content d'avoir fait cette émission avec toi, Patrick. C'était toujours un plaisir, comme tous les 15 jours. J'espère que tu me réinviteras dans 2 semaines aussi. A priori
oui. Il n'est pas impossible. Je vous avoue que je suis un petit peu stressé. Hein. Enfin stressé. Je suis un petit peu au bout de certains trucs en ce moment. Donc il n'est pas impossible que la semaine prochaine ou la semaine d'après, je prenne une semaine off. Donc on verra.
Évidemment.
Oui, mais du coup, bon, on va voir comment on fait. Mais oui, je sais pas. Mais tu sais quoi, en fait, le truc sympa, c'est les autres. C'est pas l'enfer, les autres. C'est nous. Nous tous ensemble. C'est nous, voilà, c'est les ça. Trucs sympas. On ensemble. Est contents d'être ensemble, de passer des moments joyeux avec vous, avec toi, oui. JK, avec tous les auditeurs et les auditrices. C'est ça qui est cool. Dans le podcast, ça nous apporte un peu de convivialité, de bienveillance, de réconfort tous ensemble. On passe un moment entre amis, même quand on est dans les transports, même quand on est au boulot et qu'on fait semblant de travailler, qu'on est concentré sur l'ordi en train d'écouter le truc dans les oreilles. C'est ça le truc sympa, c'est qu'on est ensemble. Merci d'être avec moi, JK. Ça me réchauffe.
Avec plaisir.
Où peut-on te retrouver sur Internet, dis-moi?
C'est toujours sur le podcast ZQSD, les derniers numéros, bah, j'en ai déjà parlé, hein, ce qu'on a sorti, c'était il y a déjà un petit moment, mais on enregistre le prochain, normalement une grosse semaine, on va dire, donc j'ai très hâte. Donc podcast ZQSD.fr, et puis allez voir sur vos applis de podcast, hein, comme d'habitude. Après, je pense que... Voilà, vous connaissez, je pense, ZQSD, si vous écoutez Rendez-vous Jeux, au moins de nom. Alors, si vous n'avez pas écouté, c'est peut-être l'occasion, mais voilà, donc voilà.
Donc voilà, ZQSD.
Je suis nul en promo, je suis très nul en promo. Mais en fait, je ferai la promo quand on aura enregistré le prochain.
C'est bon. Bien, oui, c'est ouais. Une bonne idée. Et acheter des Rogue Ally aussi, non? C'est pas ça la promo aussi?
Ouais, officiellement, je suis là. Là, j'ai ma casquette podcaster, j'ai pas ma casquette Asus. Mais bon, si vous achetez Rogue Ally, je suis content, il n'y a pas de souci.
Mais tu pourrais nous dire discrètement, personne n'écoute, est-ce qu'il y en a une autre qui arrive? Est-ce qu'il y en a un nouveau?
Oula.
Alors, personne n'écoute, je te promets.
Asus ne commande pas les rumeurs et les...
D'accord, et les spéculations.
Donc, nous avons hâte de partager des informations sur l'avenir de la Rogue Ally, n'est-ce pas, pour l'année à venir.
Très bien. On nous dit dans la chatroom, l'important, ce n'est pas la dernière news déprimante. L'important, c'est le podcast qu'on a écouté en chemin. C'est ça, exactement.
C'est ça, c'est le chemin, c'est beau.
C'est le chemin qu'on a fait ensemble. Pour ma part, c'est Note Patrick un petit peu partout. Comme je disais, le lien vers ce petit groupe de diffusion, enfin ce canal de diffusion WhatsApp que je suis en train de tester, vers les archives de la newsletter dans les notes de l'émission. Fanny, si tu peux penser à mettre dans les notes comme on a fait pour le rendez-vous tech, et puis on officialisera ça dans les notes générales si ça... Ça se perpétue si c'est confirmé. Et puis notre Patrick un petit peu partout, notrepatrick.com pour tous les liens. Le Patreon, patreon.com/rdvjeux. Et puis des bisous. C'est ça le plus important, c'est des bisous que je vous envoie pour ceux qui en veulent. Hein, ceux qui en veulent pas,
oui.
Vous pouvez avoir un...
Oui, le consentement, c'est important. Les bisous, mais le consentement, c'est important aussi.
Des bisous de loin, hein, mais si vous voilà. Voulez, des poignées de main, des signes
des d'affection. Des chèques avec le poing.
Des chèques, voilà. J'ai cru que tu allais dire des chèques. Non, des chèques, c'est vous.
Ah, oui.
C'est Patreon.
Oui, les chèques, plutôt, c'est l'inverse, s'il vous plaît. Ouais.
Mais des bisous à tout le monde. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et je vous donne rendez-vous donc mardi pour le rendez-vous tech et jeudi prochain pour le rendez-vous jeu. Si je l'ai fait, je verrai comment ça se passe cette semaine, la semaine prochaine. J'ai besoin de respirer un peu, donc on verra. Je vous fais des bisous et à très vite. Ciao, ciao. Et je n'oublie évidemment pas de mettre ce formidable générique pour conclure. Ciao à tous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.